Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présentent
Sud Radio fait son tour de France.
Et le maillot jaune, Tadej Pogacar, qu'on voit dévaler tout simplement les rues de Paris, puisqu'ils viennent d'arriver à Paris. Alors bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous sur Sud Radio. Sud Radio qui fait son tour de France. Nous avons vécu hier un très beau contre-la-montre remporté par Wout Van Aert dans les vignobles de Saint-Émilion. Cette fois, une étape moins sauvage mais chargée de symboles et de monuments. Alors Chatou, Champs-Élysées. Et évidemment, vous pouvez nous appeler à tout moment au 0826 300 300. Nous allons débattre de cette grande boucle, un beau creux mine de rien, et on va faire un bilan sans concession, parlons vrai. Mais avant, je tiens à accueillir nos journalistes et notre journaliste sportif de la table. Bonjour Rémi Dos Santos.
Salut Augustin, salut à tous.
Nous sommes aussi avec nos consultants, Pascal Chanteur, président de l'Union Nationale des Cyclistes Professionnels et ancien coureur sur le Tour. Bonjour Pascal.
Bonjour à toutes et tous.
Et Vincent Barthaud aussi, qui a porté le maillot jaune pendant 12 jours en 1984. Quel honneur. Bonjour Vincent.
Et 13 avec la journée de repos. Hein. Bonjour, faut pas l'oublier celle-là parce que ça fait longtemps. Hein.
Voilà, ça fait des années de repos pour toi. Là. Et en plus, je crois que tu es sur les routes du Tour, donc tu vas nous faire vivre ce moment et ce final.
Exactement, je suis en plein la place de la Concorde à l'arrivée à côté du Crillon. Voilà, on est tous bien installés, il y a beaucoup de monde et on attend avec impatience les coureurs.
Et les coureurs qui viennent d'arriver à Paris, c'est ça?
Exactement, ils viennent de rentrer. Alors ça roule pas encore très très vite, c'est l'habitude hein, de faire une journée... tranquillou, avant d'arriver sur les champs où là on va vraiment se bagarrer pour cette dernière étape.
Ouais, bah justement, bah cette étape tranquillou, on va en parler dans quelques instants avec Rémi, mais d'abord je voudrais qu'on fasse un tout petit point sur l'actualité sportive du jour pour se mettre dans l'ambiance. Alors que s'est-il passé ce dimanche, Rémi ?
Eh bien, on va commencer avec le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 qui vient tout juste de se terminer avec la victoire de Lewis Hamilton à domicile. Il devance Charles Leclerc, il l'a dépassé à seulement 2 tours de l'arrivée. Valtteri Bottas pour la 3e place et surtout très bonne opération pour Hamilton qui l'emporte après avoir subi une pénalité de 10 secondes pour s'être accroché avec Max Verstappen, son rival au championnat. Verstappen a abandonné, 25-0 donc pour le Britannique qui revient à seulement 8 petits points au classement général. À noter la 9e place d'Esteban Ocon qui marque donc 2 points. En football, le marché des transferts s'active depuis la fin de l'Euro, vous le savez, et l'AC Milan poursuit ses achats en France après avoir recruté Mike Maignan, le 3e gardien de l'équipe de France, et Olivier Giroud qui est arrivé hier. Les Milanais ont annoncé le recrutement de Fodé Ballo-Touré en provenance de Monaco. Les clubs tricolores aussi sont actifs. Kevin Gamero, international français, pourrait lui aussi revenir en Ligue 1, c'est à Strasbourg. Son club formateur. Autre Français qui pourrait changer d'air, c'est Corentin Tolisso, le champion du monde, qui est mis sur le marché des transferts par son club du Bayern Munich. Et puis en tennis, l'apprentissage se poursuit pour Clara Burel. La jeune Française s'est inclinée en finale du tournoi de Lausanne en Suisse, sa première sur le circuit professionnel féminin. Elle s'est inclinée en 3 manches contre Tamara Zidanec malgré le quinte de la première manche. Et puis chez les hommes, Pablo Carreño Busta a lui remporté le tournoi d'Hambourg en Allemagne. Succès facile, 6-2-6-4 contre Krajinovic.
Merci beaucoup Rémi. Alors tout de suite, avant qu'on fasse un tout petit point sur l'étape du jour, toujours avec toi Rémi, je voudrais avoir un petit peu votre retour, Pascal et Vincent, et je voulais vous demander si vous étiez déjà nostalgique, parce que là c'est un peu le baroud d'honneur. Est-ce que vous êtes déjà nostalgique de ce tour, Pascal?
Bah écoutez, lorsque vous avez fait 3 semaines de voiture et 3 semaines d'hôtel et 3 semaines loin de la famille, vous avez quand même à un moment donné envie de rentrer un petit peu au bercail, comme on dit. Donc la nostalgie, elle ne viendra que quelques jours après, une petite semaine après. Mais pour l'instant, on est tous, et je pense encore plus les coureurs, contents de finir avec ce Tour de France. Il a été magnifique, il a été difficile, comme souvent le Tour de France. Mais à un moment donné, il faut bien que ça se termine parce que les organismes sont quand même largement touchés.
Bah c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on va revenir aussi sur ce point-là, le besoin de voir les familles. C'est pour ça qu'Alaphilippe n'ira pas aux Jeux Olympiques en partie. Et ben on parlera justement des Jeux Olympiques en toute fin d'émission vers 19h45. Et Vincent, est-ce que tu te sens déjà nostalgique ?
Oh non, moi je suis plus nostalgique de rien. Moi je vais prendre 60 balais, je profite de la vie à fond. On a tous eu un bon petit moment, on a passé, voilà, quand t'as réussi à être professionnel, voilà, mais de ce Tour de France, il a été magnifique, et comme le disait Pascal, c'est vrai que pendant 3 semaines, après, tout le monde a envie de rentrer, de retrouver un petit peu la famille, mais c'est toujours une belle fête, mais pas pour tout le monde, pas forcément pour les coureurs, à part aujourd'hui. Mais la nostalgie, non, on la met de côté, on la laisse de côté. Hein.
Trois semaines, donc c'est bien, pas plus. Et je me demandais, est-ce qu'il y a eu des débats dans l'histoire récente sur la durée du Tour ? Est-ce qu'on a voulu le rallonger ? Est-ce qu'on a voulu le raccourcir ?
Ah ben, c'est déjà 3 semaines.
quand les gens voient comment un coureur peut faire 3 semaines de vélo avec autant de difficultés, ils se disent comment ils font. Donc non, je pense pas qu'on puisse remettre une 4e semaine. Non.
Non, mais le raccourcir,
ou le raccourcir un petit peu, mais c'est toujours compliqué. C'est comme les parcours. C'est pas facile. Il y en a qui proposaient aussi de faire une journée, 2 jours, une journée de repos. Après, on refait 2 jours. Ouais. Non, voilà. Elle est partie dans cette formule-là. Il faut laisser comme ça.
Et Pascal, dans les débats sportifs, de manière générale, on en avait parlé hier avec la FIFA, il y a plein d'autres sports aussi, on va de plus en plus vers une réduction des temps effectifs. Est-ce que ça, c'est un débat qui court chez les coureurs, c'est un mauvais jeu de mots ?
Non, pour revenir à votre première question, est-ce qu'il y a eu des discussions ? Oui, il y a eu des discussions. Et il y a eu des discussions, et non pas sur le Tour de France, mais sur le Giro ou la Vuelta.
D'accord.
Par rapport au calendrier international et au calendrier World Tour. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait parce que le Giro n'a aucune envie de diminuer le nombre de journées. La Vuelta ne serait pas contre. Mmh. Et ça, il faut que la discussion est autour de la table. Donc, mais le Tour de France à aucun moment. Ensuite, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours déjà, il y a eu une journée de repos supplémentaire. Mmh. Moi, j'ai connu une seule journée de repos sur le Tour de France. Et après 98, il y a eu une deuxième journée de repos qui a vu le jour pour que les organismes puissent récupérer et encore une fois en concertation avec l'ensemble du corps médical pour trouver un intérêt à la santé de l'athlète.
D'ailleurs, c'est pas toi, Pascal, qui nous fera mentir, mais une journée de repos n'en est vraiment pas une. On est tout le temps sur le vélo toute la journée.
Alors, la journée de repos est quand même une journée de repos, même s'il faut mettre l'organisme en activité. Un coureur du Tour de France, lors d'une journée de repos, fait un petit peu de vélo. Il n'en fait pas autant qu'il le peut en faire lors d'une étape, mais il s'astreint quand même d'avoir quelques efforts physiques durant cette journée pour ne pas être ensuqué, comme on dit, être démobilisé physiquement le lendemain. Mmh. Voilà.
Bah justement, bah aujourd'hui, c'est presque une journée de repos jusqu'au sprint final. Et on va faire un petit point avec Rémi Dos Santos parce qu'il s'est quand même passé quelques petites choses pour qu'on en parle, Rémi.
Oh bah, des petites photos surtout. Hein, les coureurs sont tranquilles. Hein, ils viennent de rentrer dans Paris, on l'a dit il y a quelques minutes. La course en elle-même, elle est partie depuis 1h30 de Chatou. Donc, et le peloton est dans les rues de Paris et remonte jusqu'au circuit qui leur permettra de faire le tour des Champs-Élysées, de la place de la Concorde et de tous ces beaux monuments parisiens. Évidemment, pas d'échappée puisqu'on est sur une grande parade pour l'instant. Ça va démarrer certainement à partir du premier passage sur les Champs. Pour l'instant, eh bien, ce sont les UAE qui mènent le peloton, les UAE de Tadej Pogacar qui va remporter ce Tour de France 2021. Il profite. Qu'est-ce qu'on a pu voir à part des petites photos tranquillement du maillot jaune avec ses compatriotes slovènes ou ses coéquipiers? Eh bien, c'est des radars qui flashent les coureurs quand même, hein, parce qu'on est tranquille, mais on est passé à plus de 50 en ville tout de même.
On parle souvent en plus des radars sur Sud Radio, ça fait polémique. Et là, il y avait quand même quelques points à prendre hein, au-delà de la côte des Grès, et je crois que Pogacar a attaqué en plus. Et finalement, c'est Mikkel Bjerg qui prend les points. Alors évidemment, on se pose plein de questions, et la première question qu'on va se poser, c'est que l'écart ne va a priori pas changer, en tout cas entre Pogacar et Vingegaard. Alors l'an dernier, il y avait 59 secondes d'écart entre Pogacar et Roglic sur les Champs. Aujourd'hui, il y a 5 minutes 20. On a envie de se dire que ce n'est pas forcément le suspense et l'écart qui fait un beau tour, non, Pascal?
Oui, exactement. Comme on l'a dit dans notre débrief hier, le Tour de France a été pas mal impacté par des abandons et non des moindres. Il y a eu pas mal de circonstances de course qui ont fait que beaucoup de protagonistes au classement général ont disparu. Mais le Tour de France a été un beau et va avoir un très beau vainqueur. Et encore une fois, ce qui s'est passé en 2021 ne sera certainement pas ce qui se passera en 2022. Parce que, comme on l'a dit, Pogacar va gagner son deuxième Tour de France. Rappelez-vous, lorsque Egan Bernal a gagné le Tour de France, on lui pressentait un avenir radieux et d'aligner les Tours de France comme un collier de perles, et ça n'a pas été du tout le cas. Donc les années ont tendance, enfin se suivent, mais n'ont pas tendance à se répéter systématiquement.
Après Bernal, cette année n'était pas trop là, n'était même pas du tout là.
Ouais, il a remporté le Giro.
Et est-ce que justement, par exemple, Bernal peut menacer Pogacar après?
Ouais. Bien sûr. Egan Bernal a le potentiel pour être être le l'un des favoris du Tour de France. Mmh. Maintenant, encore une fois, la condition athlétique, physique, sportive du mois de juillet n'est pas une science totalement écrite. Mmh. Et à un moment, eh ben, il y a de l'adversité. Et ce que nous, on aimerait, comme tout amoureux du vélo, c'est que tous les protagonistes, tous les champions, tous les leaders de chaque équipe soient à leur top niveau pendant le mois de juillet. Et là, ça, je pense que tous les amoureux de notre sport veulent voir ce genre de choses.
Ouais. Bah, le mois de juillet, tu en parles, et bah, il fait enfin beau à Paris et il passe à côté d'un très beau monument, Rémi.
Ouais, le peloton est en train de traverser le Louvre et de passer à côté de la pyramide du musée parisien. On est là pour profiter aussi du côté des coureurs. Pour l'instant, on va arriver sur les champs et bientôt vraiment lancer les hostilités, même si évidemment on s'attend à un sprint tout à l'heure sur les champs. Il y aura 8 passages sur les champs avant la 9e qui sera la ligne d'arrivée de ce Tour de France 2021.
Vincent, on va revenir au sujet de tout à l'heure. On parlait de l'écart entre Pogacar et Vingegaard comparé à l'écart avec Roglic l'an passé. Est-ce que tu rejoins Pascal sur le fait que ce n'est pas forcément l'écart qui fait un beau tour, en tout cas l'écart resserré?
Oui, exactement. Ça, un Tour de France peut être aussi beau que quand t'as qu'une minute d'écart. Il a complètement raison. Après, voilà, l'écart s'est fait de 5 minutes. Bon, bah tant mieux pour Pogacar, mais ça ne retire rien à la course. On a eu des beaux Tours de France où, souvenez-vous, où Greg LeMond a gagné le dernier jour pour peu de secondes. Voilà, non, ça c'est autant magnifique. Le tout, c'est d'arriver le premier à Paris, hein, c'est le plus important. Hein. Ouais. Alors que les coureurs s'approchent de moi, vous allez peut-être pouvoir écouter un petit peu le passage de tout le peloton. Je vais essayer de vous mettre...
On entend des motos en tout cas.
Voilà, les motos, ils sont tous en train d'arriver. On va assister à un peloton groupé. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans les choses sérieuses où les coureurs, les principaux coureurs de sprinteurs vont, les équipes de sprinteurs vont...
Le rythme va accélérer, c'est ça que tu dis.
Le rythme va exactement accélérer, voilà. Les voilà qui arrivent, je vais essayer de... Vous allez me dire, attention, les voilà, c'est parti. Écoutez le spectacle sur la place de la Concorde.
On entend les klaxons, les motos. En tout cas, ils sont en train de passer, comme tu le disais, place de la Concorde. Ils vont bientôt rejoindre les champs, comme le disait Rémi, ils vont passer 8 fois sur les champs. Et le rythme va accélérer, bah, nous aussi on va accélérer, on va se retrouver dans quelques instants. On va continuer notre bilan du Tour de France et puis on va recevoir l'ancien coureur John Gadret. A tout de suite.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîte de France 64 présente
Sud Radio fait son Tour de France.
Il a le maillot. Le maillot bouton d'or, le maillot jaune.
Petit air des musiques parisiennes des années 60, bah justement, Rémi, un moment important de la course, si on peut dire.
Oui, exactement. Le peloton vient de passer pour la première fois sur la ligne. Sur les Champs-Élysées, début des 9 tours à parcourir. Le 9e sera synonyme de fin de l'étape, de fin du tour. Et comme on pouvait s'y attendre, eh bien, il y a déjà des premières offensives, évidemment. Ils sont nombreux à être sortis, une petite dizaine de coureurs à quitter le peloton. Oh, ça devrait malheureusement pas prendre plus de 45 secondes, peut-être une minute, mais évidemment les équipes de sprinteurs vont contrôler ces 52 derniers kilomètres et on devrait s'attendre à une arrivée au sprint. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le nom des coureurs qui sont sortis, mais ils sont un petit peu nombreux quand même. Ils sont une dizaine, une quinzaine à être sortis. Et pour l'instant, c'est toujours les UAE de Pogacar qui sont aux avant-postes, mais les équipes de sprinteurs devraient prendre le relais.
C'est pas une si mauvaise idée de montrer les muscles sur les champs aux jolies parisiennes. Alors évidemment, il reste 50 km à peu près, mais avant ça, on reçoit John Gadret. Donc vous avez été 3e du Giro 2011, vous êtes un récent retraité, vous avez été à G2R La Mondiale, Movistar, et puis vous êtes aujourd'hui pilote pour Leclerc. Alors on fera pas de mauvaises blagues sur la performance de Leclerc en Formule 1 qui vient de perdre contre Hamilton, comme le disait Rémi Dos Santos, et Leclerc, partenaire officiel du maillot à poids. Bonjour John.
Bonjour.
Alors, je voudrais juste revenir sur une petite anecdote. Vous êtes champion de France de cyclocross, comme, pas en France du coup, mais dans d'autres pays, comme Wout Van Aert, comme Mathieu Van Der Poel. Quelles sont les qualités d'un bon cycliste de cross qui peuvent rendre service sur un grand tour?
Moi, je pense qu'en fait, on le voit depuis pas mal d'années, en fait, On peut citer Van Der Poel, Wout Van Aert. Après, il y a aussi Julien Alaphilippe qui fait du cyclocross. Et il y a de nombreux coureurs qui en font.
Ils ont des qualités similaires d'ailleurs, les trois.
Ouais, tout à fait. Donc après, on retrouve le punch. On retrouve plein de trucs en fait dans le cyclocross. Et on se sert de ça sur la route justement pour faire la différence parfois.
Alors, qu'est-ce qu'implique ton rôle pilote pour Leclerc sur le Tour?
En fait, moi, mon rôle chez Leclerc sur le Tour, c'était d'emmener trois invités chaque jour, en fait, de les faire découvrir un petit peu le Tour de France et de leur faire parler de mon expérience dans le cyclisme, des petites anecdotes, tout ça. Et c'était vraiment, j'ai passé trois semaines inoubliables.
Et inoubliable, justement, je voulais avoir un petit peu ton avis sur ce Tour par rapport au Tour précédent. Est-ce que c'est un très beau cru?
Moi, je pense que oui, on a un très beau cru. Après, dommage que Primoz Roglič est tombé en première semaine, qu'on ait perdu quelques leaders en première semaine. Ça aurait pu faire encore une super belle bagarre, mais franchement, non, je pense qu'on avait... pour les coureurs, ça a dû être un tour très, très éprouvant, mais bon, pour les téléspectateurs, je pense que même les gens qui ont regardé derrière leur écran, ils se sont régalés, ou écoutent à la radio.
Alors, ça va donner une arrivée sur les champs, sous passe sanitaire, port du masque pour les plus de 12 ans. Pas d'autographe, pas de selfie, distanciation physique, on va plus jamais l'avoir, notre tour du monde d'avant. Et même pour un coureur, ça doit pas être facile.
C'est sûr que pour un coureur, c'est pas facile, mais bon, c'est en espérant qu'on va s'en sortir. Cette année, c'est comme ça, et espérons qu'année prochaine, on retrouvera tous une vie normale. Et qu'on puisse justement, que les gens puissent aller voir les coureurs et demander des autographes.
Alors, est-ce que, forcément, c'est la question que tout le monde se pose, est-ce que Cavendish peut perdre cette étape?
Sur le papier, non, vu l'équipe qu'il a, quand on vous dépose à 50, 75 mètres de la ligne d'arrivée, c'est difficile de perdre. Mais bon, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un truc qui m'a. J'ai entendu un truc hier dans les déclarations de Wout Van Aert et il aimerait gagner cette étape. Donc attention, quand il a décidé de faire quelque chose, Wout Van Aert, c'est pas n'importe qui. En plus, l'arrivée est sur les pavés. Donc je pense que s'il est mis dans de bonnes dispositions, même s'il reste que 4 coureurs dans son équipe, s'il arrive à prendre la bonne roue, je pense qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui. Ouais.
Alors tout à l'heure, tu es ancien coureur, on l'a rappelé, troisième du Giro 2011. Tout à l'heure, on va en parler plus longuement à 19h45. Mais quelle importance revêtent les Jeux Olympiques pour un coureur?
Je pense que, c'est pour moi, à mes yeux, c'est la plus belle, c'est une des plus belles courses au monde après le Tour de France, bien sûr. Tout coureur.
Et
tout
les championnats du monde, par exemple.
Ouais, c'est aussi une belle course, mais je pense que à mes yeux, moi, c'est les JO en fait, parce que les JO déjà, c'est tous les 4 ans. Donc dans une carrière, moi, j'ai eu la chance d'être présélectionné, mais malheureusement, j'ai pas participé, parce que je me suis blessé à ce moment-là. Mais bon, c'est le seul regret de ma carrière, c'est ça, de ne pas avoir participé au JO, on va dire.
Alors, t'as été ancien coureur, on en parlera aussi, ce sera un autre débat. Mais comme t'es avec nous, je préfère te poser la question maintenant. On a l'impression que sur ce tour, les équipes n'ont pas forcément tout le temps joué leur rôle. En tout cas, on ne les a pas vus autant en avant que d'habitude. Est-ce que tu partages ce constat?
On a vu, c'est vrai que c'était un tour, je veux dire, un petit peu ouvert.
Assez individuel, en fait.
Voilà, c'est ça. Il y avait pas de d'équipe qui mettait vraiment la main prise comme c'était auparavant avec Jumbo Visma ou avec Ineos. Donc, et moi, je trouve que c'est bien les courses comme ça qui sont décousues. Et puis, on a aussi le phénomène Van Der Poel, l'étape qui faisait 250 km et en fait, il a couru à sa façon. Et ça, c'est moi, je trouve. Il y a certains coureurs qui critiquaient, mais moi je trouve que c'est génial. C'est du cyclisme à l'ancienne et c'est ce qu'il faut voir. Quoi. Ça donne du spectacle et c'est génial.
Est-ce que ça s'est peut-être un peu aseptisé? Est-ce que ça manque pas de gars comme ça qui tentent des échappées, qui ont une manière de courir assez rare? On sait que Julian Alaphilippe est un des rares punchers aujourd'hui. Il y en avait peut-être un peu plus avant.
C'est sûr que ça manque. Donc maintenant. Pardon. S'il y a des cyclocrossmen qui se mettent à faire beaucoup de routes, je pense qu'on va avoir de plus en plus de courses comme ça et tant mieux. Oui.
Écoute, merci beaucoup John d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je rappelle que tu as été troisième du Giro 2011 et que tu es pilote pour Leclerc, partenaire officiel du maillot à poids. Alors justement, je vais revenir avec vous, Rémi Dos Santos, Pascal Chanteur et Vincent Marteau, sur les débats que j'ai commencé à avoir avec John. Et Rémi, je voulais te poser cette question. Finalement, on a l'impression que les équipes n'ont pas joué leur rôle. Ineos, par exemple, a été pas mal en tête, a fait pas mal de travail pour ne gagner aucune étape, pour n'avoir personne de très très bien placé. Est-ce que c'est un tour un peu singulier là-dessus ou est-ce que c'est une tendance qu'on remarque ?
Non, c'est plus... enfin, alors, en tout cas, à mon sens, c'est un tour singulier parce que voilà, les chutes ont fait que... normalement, on avait deux équipes qui devaient cadenasser la course, la Jumbo-Visma de Primoz Roglic, l'Ineos de Richard Carapaz et Geraint Thomas. Et le problème, c'est que Roglic est tombé très tôt. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, chez Jumbo. Mmh. Martin est tombé. Rezink a abandonné dès le premier jour aussi. Donc du coup, forcément, avec déjà, il n'y a plus que 8 coureurs depuis quelques années au lieu de 9. Donc déjà, si on en perd un ou deux, bah, on est déjà bien déplumé. Et ces deux équipes ont perdu rapidement des coureurs. Ineos a perdu son leader du premier jour, qui était Geraint Thomas. Même si Carapaz était là, c'était pas dans le même registre, puisque Geraint Thomas est un rouleur, alors que Carapaz est vraiment plus un grimpeur. Donc voilà, ces deux équipes, finalement, elles avaient plus les armes pour cadenasser la course.
Mais Carapaz, il fait souvent le travail tout seul.
Et Carapaz, il a été très offensif, mais tout seul. Mmh. Et au final, ça s'est joué du coup à la pédale, vraiment individuellement, comme tu le disais. Bah, et tout simplement, Pogacar était le plus fort, donc il a logiquement gagné.
Pascal Chanteur, est-ce que tu partages le constat de Rémi ou est-ce que tu penses qu'on va s'orienter vers des Tours de France de plus en plus individuels? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, les performances physiques et sportives de Pogacar et de Bernal, par exemple, l'année dernière, c'est très costaud.
Écoutez, moi je pense qu'on pourrait revenir à une mainmise et l'emprise d'une équipe à partir du moment où les équipiers, les lieutenants et le leader est en pleine possession de ses moyens. Ineos, c'est l'exemple type. Ineos a perdu son leader dès les premiers jours. La condition physique de l'ensemble de l'équipe ne permettait pas non plus d'avoir cette emprise comme les années auparavant. On l'a bien vu, hein, lorsque la course se faisait de plus en plus difficile et qu'on se retrouvait à une quinzaine de coureurs, il n'y avait plus que 3 Ineos, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je pense que cette année, l'équipe Ineos n'était pas à la hauteur de ce qu'elle pouvait être auparavant. On l'a vu aussi avec l'équipe UAE qui était bien plus forte que celle de l'année dernière.
Qui est la 10e équipe au classement général.
Voilà, mais après le classement général par équipe, c'est encore autre chose, parce que vous pouvez très bien faire un très gros travail, finir tranquillement pour bien récupérer, et puis d'être à nouveau à l'attaque le lendemain. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez la Jumbo-Visma, il n'était pas aussi tranchant qu'il pouvait l'être l'année dernière, on l'a bien vu, parce que eux aussi, ils ont été décimés dès les premières étapes. Et à partir de là, eh bien, vous avez une course ouverte. Ce qui ne veut pas dire que l'année prochaine, ça soit exactement dans la même physionomie. Vous pouvez, au contraire, revenir sur un schéma de course un petit peu à l'identique de ce qu'on a pu vivre les dernières années. Moi, je trouve que cette année, le fait que l'équipe UAE a laissé la course ouverte a quand même donné pas mal d'ouverture à un certain nombre de coureurs. Rappelez-vous, on a quand même eu pas mal de vainqueurs à titre individuel en échappé. Il y a eu pas mal d'échappés au long cours, voilà. Mais d'échappés au long cours qui sont allés jusqu'au bout. Vous prenez l'étape du Creusot. L'étape du Creusot, ça a été juste une étape magnifique. Comme l'a dit John Gadret, Mathieu Van Der Poel a mis le feu aux poudres dès les premiers kilomètres avec Wood Van Aert. Et puis c'était parti. On n'aurait pas vu ce genre de choses quelques années auparavant avec une équipe Ineos très forte qui aurait rapidement...
C'est peut-être une bonne chose pour le tour.
Toute attaque, bien
totalement.
Sûr.
Juste, on va se retrouver après un court instant, mais avant, je voudrais juste faire un tout petit point sur le tour en direct. On est évidemment en direct sur Sud Radio avec Rémi.
Oui, 4 hommes en tête. Là, pour le moment, dans la course, il reste 44 km à parcourir. Il reste 7 passages sur la ligne des Champs-Élysées. Patrick Conrad, Stéphane Bisseger, Casper Pedersen et Harry Sweeney ont pris une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton qui est là, pour le coup, contrôlé par des coureurs qui veulent aller dans l'échappée ou par les équipiers de sprinteurs. Et le prochain passage sera important puisqu'il y aura le sprint intermédiaire, donc des points à prendre dans la course au maillot vert.
C'est la première fois que c'est aussi facile de faire du vélo à Paris. Bon, écoutez, on se retrouve dans un court instant sur Sud Radio, à tout de suite.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente.
Sud Radio fait son tour de France. I want to ride my bicycle, I want to ride my bicycle.
Ouais, j'ai envie d'être sur mon vélo. Bah, je crois qu'on a tous envie d'être sur notre vélo.
Toutes les chansons de vélo.
Toutes les traductions. C'est le travail de notre réalisateur Jamel hein, qu'on félicite. Alors juste avant, je vais te donner la parole, Vincent, après sur les équipes, parce que c'est un vrai sujet qui revient souvent sur la table. Mais avant, je voudrais qu'on reçoive Alain Deloy, directeur sportif de Cofidis. Et Cofidis qui est évidemment l'équipe de Guillaume Martin. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour, alors merci d'être avec nous. Bah justement, je voulais avoir ton avis sur le tour de Guillaume Martin qui n'avait pas pour objectif initial d'être dans le top 10 et qui visait plutôt une étape. Est-ce que c'est plutôt satisfaisant finalement d'être 8e plutôt qu'une étape ?
Bah, finalement, on se contente en fait de la 8e place de Guillaume. Effectivement, au départ, c'était pas ce qui était prévu. Et sincèrement, en plus, parce que des fois, on peut penser qu'on l'avait fait à l'intox. Mais en fait, c'est faux. En fait, Guillaume avait l'intention de vouloir avoir le champ libre pour gagner une étape.
À l'intox ou à l'humilité, et, oui, on s'est posé la question.
Ouais, voilà. Et en fait, voilà. Donc, il avait volontairement pris du temps en début de Tour de France, justement pour avoir un peu le champ libre. Et puis, les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé. Et qui se retrouve maintenant le jour de l'arrivée 8e du classement général. Donc voilà, comme quoi on peut penser parfois de ne pas faire le général et puis involontairement avoir une place très intéressante au général.
Et l'équipe de manière générale, tout le monde a pris du plaisir et vous êtes satisfait ?
Oui, parce que je pense que c'est un bon tour. On peut pas, bon voilà, on a vu les coureurs de l'équipe constamment aux avant-postes à l'attaque, je ne vais pas commencer à citer, mais à l'image d'Anthony Pérez, qui a été très offensif sur le Tour.
C'est le troisième coureur à avoir parcouru le plus de kilomètres en tête.
Oui, absolument. Et puis il a été plus combatif à l'occasion d'une étape. On l'a vu à l'occasion des étapes qui avaient beaucoup d'intérêt, notamment aussi dans le dernier contre-la-montre, où il l'a pas fait en dedans, puisqu'il fait une 20e place au général. Au classement d'étape, pardon. Donc, cela dit, je pense qu'on a été très actifs sur ce tour. Bien évidemment, il manquera toujours cette victoire d'étape qu'on attend depuis maintenant, je ne compte plus les années. Et puis, c'est un peu, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je pense que ça n'a plus vraiment d'intérêt. Je pense que beaucoup d'équipes n'ont pas gagné d'étape. On en fait partie. Il n'y a pas beaucoup d'équipes finalement qui ont gagné des étapes sur le Tour de France. Quand on enlève les victoires de Kenin Quick-Step, il y en a déjà 4-5, voire peut-être encore aujourd'hui. Donc c'est un peu spécial. Et puis je pense qu'on a on a été présent dans beaucoup d'échappées et on a montré le maillot. Les coureurs ont été très actifs durant ce Tour de France. Et tout ça avec une 8e place de Guillaume au classement général, qui est sa meilleure place dans un grand tour. 8e, un top 10 dans le Tour de France, je pense que c'est pas négligeable.
Il y a 15 équipes, hein, pour te donner les chiffres, qui n'ont pas gagné d'étape. Donc finalement, bon.
Il y a 15 équipes, hein, voilà.
Il y a donc, Rémi Dos Santos a une question pour toi.
Oui, bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Je reviens sur Guillaume Martin. Est-ce qu'il y a eu un moment, alors vous n'étiez pas sur le Tour cette année, mais est-ce qu'il y a eu un moment où Guillaume Martin a basculé en mode classement général, où tout au long des trois semaines, il s'est dit qu'il y avait peut-être moyen d'aller dans une échappée pour aller gagner ?
Bah, ça s'est fait un peu automatiquement. Et très sincèrement, et c'est pas de l'intox encore une fois, au départ, c'était vraiment ce qui était recherché, c'était prendre du temps, parce qu'on avait eu dans le passé un coureur que vous connaissez très bien, qui est David Moncoutier, qui faisait ça et qui prenait volontairement du temps pour pouvoir se glisser dans les échappées et ainsi pouvoir avoir le champ libre pour pouvoir gagner des étapes. C'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il a fait autour d'Espagne, c'est ce qu'il a fait autour de France, avec réussite, puisqu'il a gagné 2 étapes sur le Tour de France. Et Guillaume était parti dans cette optique-là, en voulant prendre du temps en début de Tour de France pour pouvoir justement avoir le champ libre et se glisser dans les échappées. C'est ce qu'il a fait au départ du Tour de France. Mais automatiquement, la tendance s'inverse. Je dirais automatiquement, puisque à un moment donné, il est revenu dans les billes, je dirais, du classement général avec son échappée. Il est revenu se placer au niveau du classement général. Et puis, forcément,
parce qu'il a été deuxième au général, on le rappelle.
Voilà, il a été deuxième au général. Donc forcément, à un moment donné, on se dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Il a plus le champ libre. Donc, quelque part, on est obligé de jouer le classement général. Donc, ça s'inverse d'une façon naturelle, quoi.
Alors, deux questions en une. Guillaume Martin va partir au JO. Alors, ce ne sera pas le leader naturel, ce sera plutôt David Gaudu. Donc, déjà, je voulais savoir comment il le vivait. Est-ce qu'il est prêt à se mettre pleinement au service, mais je n'en doute pas une seconde, au service de l'équipe. Et puis, l'autre question, c'est est-ce qu'il ne va pas être un peu, est-ce qu'il ne va pas en avoir un laissé un petit peu trop sous la pédale?
Non. Guillaume, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un d'entier. C'est vraiment, je veux dire, Thomas Vauclair, qui est le
très cultivé,
responsable,
si je puis me permettre.
Voilà, oui, voilà. Et Guillaume, c'est quelqu'un. Si on lui dit de faire ça, il va le faire. Il n'y a pas aucun problème de ce côté-là. Donc, s'il doit se mettre au service d'un coureur, comme il l'a fait l'an dernier au service de Julien Alaphilippe pour le titre de champion du monde, Guillaume va le faire. Donc voilà.
Supposant que David Gaudu ait une petite défaillance, etc., Guillaume Martin sera prêt à prendre le lead.
Ah oui, oui, ça je pense. Maintenant, après, c'est à, je dirais que c'est à Thomas Vauclair aussi à juger, à jauger et puis à affirmer son, comment dirais-je, son, voilà, sa tactique au niveau des JO. Maintenant, je ne sais pas comment est le parcours, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Mais je pense que Thomas a suffisamment d'expérience pour voir un petit peu quel est le coureur qui aura le plus récupéré du Tour de France et qui sera apte à faire le meilleur résultat possible.
Justement, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir les jambes un peu lourdes?
Si lui, il a les jambes lourdes, je pense que David Gaudu aura les jambes lourdes. Je pense que les autres qui sont sélectionnés comme Armirail et tout ça auront également les jambes lourdes. Je dirais que le champion olympique, entre guillemets, sera certainement un coureur quand même qui sortira du Tour de France, ou alors un coureur d'exception qui aura arrêté avant et qui ira pour faire le titre également sur la route. Je ne pense pas à Van Der Poel parce que je ne sais pas s'il fait la route, mais voilà quoi. Enfin là, ce sera des coureurs comme ça. Mais je pense que le vainqueur sera certainement un coureur qui sera sorti du Tour de France.
Alors Alain Deloy, vous êtes directeur sportif de Cofidis. Je crois que Vincent Barthaud, ancien maillot jaune, a une question.
Ah Vincent. Ouais.
Salut moi Alain.
Salut,
tu vas bien?
Salut Vincent, ça va et toi?
Ouais, très bien. Écoute, avec Sud Radio, tout ne peut aller que vraiment très bien. Alain, vite fait, je voulais savoir le bilan. Tu sais, ça fait très longtemps que Cofidis est dans le sponsoring cyclisme.
Oui.
Je voudrais savoir le bilan de cette année. Est-ce que vous êtes satisfait de cette huitième place, ou vous auriez plutôt préféré une victoire d'étape?
Ah, tu me poses une colle, là, mon Vincent.
J'avais la question sur le papier aussi. Hein.
Tu me poses une colle, parce que c'est vrai qu'on court après une victoire d'étape, et tout le monde le dit à chaque fois. À chaque fois qu'on prend le départ du Tour de France, on se dit, ça fait 11 ans, ça fait 12 ans, ça fait 13 ans, et je ne sais pas combien de temps que ça va durer, j'espère le moins longtemps possible, qu'on n'a pas de vainqueur d'étape du Tour de France. Donc je ne sais pas, enfin bon, quelque part, on était parti pour gagner une étape du Tour de France. Et c'est pour ça que Guillaume, je le répète, était parti pour ne pas faire le classement général, mais pour faire une victoire d'étape. Maintenant, ça s'est inversé, et finalement, il est huitième du général. Cela dit, huitième du général, ça se prend. Tu sais très bien,
Vincent.
Que voilà,
bien
c'est
sûr.
Pas négligeable. Maintenant, tu sais que le vélo moderne, avec les points UCI, etc., pour rester dans le World Tour, tu sais qu'on est devenu comptable un peu dans le vélo maintenant. Enfin bon, il y a tout ça qu'il faut rentrer en ligne de compte et tout. Donc c'est pas un mauvais résultat. L'équipe a été visible tout au long de ces trois semaines avec des coureurs comme Anthony Pérez qui a été très actif durant ces trois semaines, Perrichon et bien d'autres. Donc voilà. Donc je pense pas qu'on ait à rougir de ce Tour de France. On a fait un très bon Tour de France. Cela dit, il n'y a pas cette victoire d'étape. Comme le disait, il y a 15 équipes qui n'ont pas gagné une victoire. Donc voilà.
Vous pouvez vous satisfaire, Alain, quand même, de la 8e place avec un coureur Cofidis, premier français. Ça, il faut déjà le faire.
Oui,
est-ce que c'est bien d'être premier français? Est-ce que c'est bien? Voilà. On se contente de ce qu'on a. Enfin, je dirais que quelque part. On est content d'avoir une huitième place, un top 10 du classement général du Tour de France. Ça, on va pas cracher dessus, bien évidemment. Et puis après, il manquera toujours cette victoire d'étape. Il y a Christophe Laporte qui était très fort avant-hier et qui est passé à côté. Il est tombé sur un très bon coureur qui est Maurice qui était à sa deuxième victoire d'étape. Donc voilà, quelque part, on n'a pas à rougir. On a fait un bon Tour de France. Peut mieux faire. Allez, peut mieux faire.
C'est ce qu'on dira tout à l'heure au conseil de classe, les peut mieux faire, les encouragements, les félicitations.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Alain Deloy. Je rappelle que vous êtes directeur sportif de Cofidis. Et puis tout de suite, je vais vous poser une autre question.
Avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien.
Oui, le plat pays, évidemment, avec c'est la Belgique de Jacques Brel. Alors la Belgique qui a eu deux vainqueurs d'étape, hein, Dylan Teuns et Van Aert. Van Aert avec trois étapes, je ne sais plus. J'ai un trou. Le double Ventoux et le contre-la-montre qui gagne en montagne. Alors de Bocol en plus, hein, et du coup on se pose cette question en termes de géographie et je vais la poser à Pascal Chanteur. On dit souvent qu'on a martelé longtemps que les Sud-Américains étaient bons en montagne en raison de la géographie de leur pays. Alors c'était une question de globules, d'habitude, de montagne. Est-ce que cet argument ne tombe pas un peu à plat maintenant, quand on voit que des Belges arrivent à gagner en montagne comme ça?
Oui, mais ça a toujours été. Hein. Vous avez eu des Hollandais, on les appelait les Hollandais volants.
Ouais, il y a Bauke Mollema aussi cette année. Ouais.
Voilà, mais pour revenir dans les années de Vincent. Vous aviez Gert-Jan Tennis, Steven Rooks, qui étaient des Hollandais et qui grimpaient. Et après, à côté de ça, vous avez eu aussi les années colombiennes, où vous aviez des Colombiens qui arrivaient totalement essoufflés au pied des cols et qui n'avaient plus le même rendement lors des ascensions. Mmh. Donc, non, tout ça, vous savez, les niveaux se stabilisent. Vous avez une certaine homogénéité pour la bonne et simple raison qu'une fois que vous avez les coureurs colombiens qui ont quitté leur continent ou leur pays pour venir courir en Europe faire le calendrier World Tour, eh bien l'effet de l'altitude, l'effet du pays dans lequel ils ont vécu, eh bien s'estompe. Donc les coureurs hollandais sont tout à fait capables, comme les coureurs belges sont tout à fait capables de grimper aussi bien que n'importe quel autre coureur.
Oui, totalement. Et Vincent, justement, pour prolonger cette question, est-ce que, alors c'est une question forcément un peu philosophique, mais est-ce qu'on doit forcément s'entraîner en France pour le Tour de France?
Non, parce que regardez, le dernier vainqueur français, c'est Bernard Hinault en 85. On a eu une bonne période avec Laurent Fignon, mais non. Là, je reviens, quand vous disiez les Belges, il faut pas oublier Lucien Van Niep, qui a été meilleur grimpeur du Tour dans les années 75, 77, 78. Mais c'est vrai que le cyclisme belge, on est plus parti sur les Flandriennes, sur les classiques et autres. Mais regardez Merckx qui est soi-disant le plus grand coureur de tous les temps, était belge. Mais non, venir s'entraîner en France, ça veut rien dire. Il faut avoir les qualités intrinsèques, que tu sois français, belge ou hollandais. Voilà, quand t'es fort, peu importe où tu te trouves.
Tu sais que tu me fais une parfaite transition parce que je crois qu'il y a justement un français, un belge et un hollandais en tête de la course là.
Tu retires le début d'une mauvaise blague.
Oui, mais ça va pas durer.
Non, ça va pas durer. Mais justement, qu'est-ce que tu vois là du bord du terrain?
Ouais, je vois. Je les vois rouler, ça me rappelle mon temps, j'ai l'impression de revoir Pascal aussi, mais Pascal en fin de peloton, puis moi en tout début de peloton, mais ça roule bien, c'est le truc classique, hein. Il y a des échappés qu'on peut pas tout contrôler, pour l'instant ils sont que trois, donc pour le peloton ça va.
Alors les trois, je rappelle, hein, Julien Alaphilippe, Ide Schelling et Philippe Gilbert, du lourd devant.
Ouais, du lourd, mais bon, on peut pas forcément résister contre des équipes de sprinteurs qui vont mettre en route à l'approche de l'arrivée et à moins qu'il y ait quelqu'un qui s'échappe au kilomètre, mais c'est de moins en moins de coureurs que dans le temps avant d'arriver à sortir du kilomètre. Maintenant c'est compliqué, donc on devra arriver à assister à une victoire au sprint et peut-être pas, pourquoi pas Wout van Aert, hein. Vous parlez des Belges, Wout van Aert, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, attention, hein, c'est avec une course de 40 kilomètres, donc c'est pas les mêmes sprints que quand on fait 200 bornes.
Merci en tout cas, merci, on se retrouve dans un court instant. Je rappelle que Mark Cavendish a pris 13 points au sprint intermédiaire, Michael Matthews 10 et Sonny Colbrelli 7, le podium du maillot vert pour l'instant, à tout de suite.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîte de France 64 présentent
Sud Radio fait son tour de France.
Fais du vélo, tu vas te faufiler partout. Et
une chanson un peu légère alors que l'ambiance est lourde là, le pavé tape. Il reste 27 km 6. Rémi Dos Santos, que se passe-t-il?
Ouais, ça chantonne pas dans le peloton, ça roule très très fort. Il reste plus que 27,5 km avant l'arrivée de ce Tour de France 2021 ici sur les Champs-Élysées. Le peloton qui passe la ligne d'arrivée, il reste 4 tours encore au peloton à parcourir dans les rues de Paris. Trois hommes sont à l'avant, Ide Schelling, Brent Van Moor et Michael Valgren. Ils ont que 5 secondes d'avance sur le peloton. Ça bouge beaucoup, ça bouge dans tous les sens, comme toujours.
Ça n'a pas duré longtemps
cette dernière étape, pardon. Oui, Alaphilippe s'est vite relevé. En même temps, il n'a pas vraiment de raison d'être devant puisque Marc Cavendish vise la victoire.
Et tu avais une interrogation à poser à Vincent sur la petite attaque d'Alaphilippe qui est à la Deceuninck Quickstep comme Cavendish.
Tout à fait. Oui, tout à fait, Vincent. On a vu Julien devant, alors tu l'as dit, ça allait pas durer longtemps et tout, mais est-ce que c'est pas risqué de mettre un mec devant alors que les coéquipiers de Cavendish vont rouler pour ramener l'échappée et jouer le sprint final?
Non, au contraire, parce que s'ils ont Alaphilippe devant, ils vont pas rouler, ils vont laisser taire les autres équipes, la Jumbo ou autre. Donc c'est aussi bien d'être représenté devant quand t'as une équipe de sprinteurs. Et surtout en plus à la Philippe qui va quand même assez vite, qui va même très vite au sprint, donc automatiquement c'est bien pour la Quick Step, mais vous avez vu, ça a pas laissé faire, hein. Automatiquement tout va rentrer dans l'ordre.
Pascal, une question que se posent tous les profanes, est-ce qu'on n'a pas à ce moment-là en tant que coureur envie de forcément tenter une attaque même si elle dure 10-15 secondes?
Ben, c'est pas moi qu'il faut te poser cette question. J'ai systématiquement attaqué sur les Champs-Élysées. j'étais parisien d'adoption. Ouais. Lorsque j'étais minime, cadet, junior, je disais à mon entraîneur, un jour, je descendrai les Champs-Élysées tout seul. J'ai eu la chance de rentrer dans Paris tout seul. J'ai eu la chance de monter et descendre les Champs-Élysées tout seul. J'ai jamais eu la chance de gagner parce que une année, je me fais revoir à quelques kilomètres de l'arrivée en ayant fait toute l'étape de Paris échappée. Donc c'est certainement pas à moi qu'il faut poser ce genre de questions. Je disais, on parlait des Champs-Élysées, que c'était un spectacle, bien sûr, mais physiquement les Champs-Élysées c'est toujours très dur parce que les pavés, le faux plat montant, on se rend pas compte quand on regarde la télé, mais c'est un faux plat montant et je peux vous dire que c'est pas simple. Les Champs-Élysées c'est mythique. C'est la plus belle avenue du monde. Lorsque vous voyez arriver la Tour Eiffel, lorsque vous finissez votre Tour de France, trois semaines de difficiles, semaines qui peuvent être à certains moments terribles, eh bien à ce moment-là, vous oubliez tout ce que vous avez pu vivre durant ces journées laborieuses. Et puis vous pensez à cette Tour Eiffel, à avoir fini ce Tour de France, parce que comme on dit. Dans le milieu cycliste, on dit que on est véritablement un coureur professionnel quand on a fini un grand tour. Donc c'est fabuleux de finir le Tour de France. C'est d'abord et avant tout, on parle de sport, on parle d'exploits sportifs, mais c'est aussi une terrible aventure humaine.
Ouais. Et d'ailleurs, j'avais vu cette tendance. Il y a de plus en plus, alors pas cette année avec tous les abandons, mais il y a de plus en plus de coureurs qui terminent les grands tours.
Mais bien sûr, mais c'est une marque de fabrique. Je veux dire, un coureur terminant un grand tour, ça veut dire que déjà pour lui personnellement, il passe un cap, parce que finir un grand tour, ça permet de passer des caps physiques, psychologiques, et c'est toujours très intéressant, et encore plus quand vous êtes jeune, parce que vous vous endurcissez et puis vous progressez instinctivement, vous progressez.
Mais je te pose naïvement la question, parce que tout à l'heure, quand on avait parlé au directeur sportif de la Cofidis, ils ont comme objectif de gagner une échappée, mais il n'y a rien de plus sacré que d'aller jusqu'au bout d'un tour, c'est comme un marathon.
Oui, mais comme je vous disais, une carrière, c'est des étapes. Lorsque vous passez pro, c'est une première étape. Lorsque vous participez à un grand tour, c'est une étape. Lorsque vous le finissez, c'est une étape. Lorsque vous gagnez une étape, c'est une étape. Lorsque vous gagnez le tour, c'est le Graal.
Et Vincent, là, tu es juste à côté, là, tu es sur place, sur les champs. Le rythme s'accélère, hein, ça se sent.
Oui, le rythme s'accélère forcément, on s'approche de l'arrivée, les choses deviennent sérieuses. Je voulais juste revenir à votre question d'avant, c'est vrai, quand on arrive sur les champs, vous savez, non seulement c'est une course particulière, une étape particulière, parce que bon, cette année elle ne fait que 100 km, avant on pouvait faire 150 ou 160, donc là ils l'ont réduit à 100, et c'est vraiment une étape particulière, ça peut être considéré comme un critérium en fait, donc quand vous avez passé toutes les étapes de montagne, les contre-la-montre, et que tout d'un coup, vous arrivez, vous prenez le départ de la dernière étape où pendant 60 km, il ne se passe rien, vous vous êtes pas bien débloqué, entre guillemets, puis que vous arrivez sur les champs où là, ça roule à plus de 50, c'est vraiment une étape très particulière. On parlait des pavés et autres et tout, mais moi, j'avais la sensation, quand j'arrivais sur les champs, c'est que, effectivement, c'était pas une étape comme une autre. La fierté d'arriver à Paris, la fierté d'avoir fini ce Tour de France, et puis aussi, la fierté de retrouver sa femme, parce qu'on retrouve sa femme le soir, et ça c'est magnifique, c'est pas ce qu'on dit parce qu'on retrouve sa femme, mais on l'a pas vue pendant 3 semaines, et on retrouve la famille, on retrouve les enfants, et ça c'est une joie aussi aussi belle que de découvrir l'avenue des Champs-Élysées, qui est la plus belle avenue du monde.
Ouais. Alors je voulais poser une question à Rémi. Tiens, Pogacar 22 ans, Vingegaard 24 ans, c'est le plus jeune duo en tête du Tour depuis 1910. Est-ce que les coureurs sont de plus en plus, enfin sont jeunes? Et de j'arrive pas à faire ma phrase, sont meilleurs de plus en plus jeunes.
Ouais, on a vraiment eu un rajeunissement sur les classements généraux depuis quelques années, tout simplement parce que les méthodes d'entraînement ont évolué, le matériel n'est plus le même, et puis maintenant on peut facilement avoir accès à tout ce qui est aide sur la nutrition, l'entraînement, le sommeil, tout ça. Il n'y a plus besoin d'être balancé comme ça sur la course et d'apprendre sur le tas. En fait, ce qui se passait avant, un peu moins, mais
ouais. Ouais, attention, entre quand on parle jeune et d'avoir 22 ans comme Pogacar, il y en a pas beaucoup. La vraie vérité chez un champion, c'est 26, 28 ans où tu arrives en pleine maturité. Là, Pogacar, il fait partie de l'exception. 22 ans, Fignon a gagné un tour à 22 ans, mais il en a pas gagné deux. Il en a gagné qu'un à 22 ans. Voilà, c'est exceptionnel quand même d'avoir.
Il y a Bernal aussi.
Oui. On a Evenepoel. Evenepoel,
il a encore rien gagné pour l'instant.
C'est vrai qu'il est pas encore là, mais c'est un peu l'étoile montante du cyclisme.
Oui.
Ouais. Bon, écoutez, on se laisse volontairement un tout petit peu plus tôt que prévu, parce qu'on va suivre cette étape en direct, vraiment en live show avec vous, avec Rémi Dos Santos et Vincent Marteau et Pascal Chanteur. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.